Soft Power, l'alphabet numérique.
Previously on Serial.
Yeah, this is like an iron bar cage.
Made for what purpose?
For keeping me in it.
And I knew we'd walked into the tribal areas over the mountains, the worst place you can be taken in the Afghanistan-Pakistan region.
Very scary. They have all kind of bad animals, and drone is 24-hour, like, making buzz, buzz, buzz.
He did something that's...
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week, sort of. I'm Sarah Koenig.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Eh bien, ce soir, nous évoquons les podcasts, le podcast. Et à l'instant, nous écoutions un extrait de la saison 2 de Serial, le célèbre podcast spin-off de The American Life aux États-Unis, présenté par Sarah Koenig. Nous sommes avec Laurent Frisch, directeur des nouveaux médias à Radio France. Alors, Laurent, on a cru longtemps que la radio ne pouvait plus innover. À longtemps, ce fut même une sorte d'idée reçue dans le monde de la radio. En ce qui concernait le média radio, tous les formats, toutes les formes avaient déjà été inventées, faites. On était condamnés à se répéter. Plus personne ne semblait pouvoir innover ou imaginer une création comme, je ne sais pas, la guerre des mondes de Orson Welles. Et pourtant, c'était sans compter avec la révolution numérique où l'on a découvert que oui, finalement, la radio pouvait se renouveler. Et le podcast est au cœur notamment de cette évolution, de cette révolution, Laurent.
Oui, la radio n'a, je pense, jamais cessé réellement de se renouveler, mais il est évident que les podcasts ont apporté une dimension nouvelle. Il faut rappeler qu'ils sont nés il y a déjà plus de 10 ans. C'est pas tout récent, les podcasts. Vous le savez certainement, mais podcast, c'est la contraction de iPod et de broadcast. iPod, qui était ce fameux terminal pour écouter de la musique au début, lancé par Apple, au début des années 2000, en 2001 précisément.
Qu'il est toujours. On peut encore avoir des iPods.
Oui, c'est, oui, on peut encore avoir des iPods. Et le broadcast, qui est la diffusion par les télés, les radios. Donc ça a fait podcast. Et finalement, c'est très très moderne, cette façon d'écouter la radio, d'écouter du son qui dépasse parfois ce qu'est la radio traditionnelle, en étant une nouvelle forme de radio, le prolongement de ce qu'est la radio telle qu'on la connaît. Vous avez cité Serial, mais en France, on n'a pas à rougir. On a aussi beaucoup de podcasts de qualité, produits par les radios pour la plupart, parce que quand vous regardez quand même dans les tops de téléchargement, ce sont les radios qui produisent la plupart des podcasts, ou en tout cas ceux les plus téléchargés. Mais vous avez une grande variété d'autres contenus disponibles pour apprendre des langues, pour découvrir des pays, et ainsi de suite. Il faut garder en tête que sur France Culture, c'est une des chaînes les plus podcastées de France.
Hein. Arrive parmi les meilleures stations en termes d'audience des podcasts.
C'est ça, avec environ 10 millions de podcasts téléchargés chaque mois. C'est quand même relativement impressionnant.
Alors, dans les exemples, on a cité Sarah Koenig et donc le spin-off de The American Life, le podcast Serial, qui, au fond, il y a un avant et un après Serial. Malgré tout, le podcast a eu énormément d'écho et surtout, il est devenu grand public et il a touché une grande audience. Il a proposé notamment d'élucider un crime commis en 1999 au lycée Woodland de Baltimore. En 12 épisodes, Sarah Koenig reconstituait l'histoire, mettait à jour les erreurs de l'enquête, les fautes de la police, les contradictions des témoins, interviewait le présumé coupable en prison et tenter de prouver ou pas, je ne dévoile pas la fin du podcast, l'innocence du garçon incriminé. Donc avec Serial, le podcast a confirmé qu'il pouvait être plus qu'une simple écoute de la radio en différé. C'est aussi votre avis ?
Oui, totalement. C'est-à-dire qu'on a quand même différents types d'émissions à la radio, ce qu'on appelle des émissions de flux qui passent très vite, des émissions d'actualité, qui commentent l'actualité du moment. Ceux-là, on peut les écouter en téléchargement, mais ces podcasts-là n'ont d'une durée de vie que très courte. Par contre, des émissions d'histoire, des émissions de philosophie, des émissions de littérature, elles peuvent durer très longtemps en téléchargement et même être ce qu'on appelle rééditorialisées, c'est-à-dire réutilisées longtemps après leur production, 6 mois, 1 an, peut-être 10 ans même, si elles se trouvent être toujours raisonnées avec l'actualité du moment.
Cette rééditorialisation, évidemment, est très centrale pour une chaîne comme la nôtre, France Culture. Ça va permettre d'avoir de véritables bibliothèques, véritables encyclopédies de sons qui sont remontés, reconstruits en podcast.
Oui, France Culture est une chaîne qui produit à la vitesse du flux des émissions de patrimoine, c'est-à-dire qui sont presque intemporelles et qu'on peut réécouter avantageusement plusieurs années après. Encore faut-il les trouver, ça va être, on l'a dit tout à l'heure, le but du nouveau site de France Culture, mais aussi que quelqu'un vous les propose. Quelqu'un, ça peut être un ami, une connaissance, un professeur, mais ça peut être la radio elle-même qui va se dire, bah tiens, je sais que dans mes archives, dans le patrimoine qu'on a créé, il y a 10 ans, 20 ans, 5 ans, 6 mois, quelque chose qui résonne particulièrement avec le temps présent et qu'on a envie de reproposer aux auditeurs.
Parmi les podcasts que nous pourrions citer, il y a tous ceux de WNYC, une radio publique de New York, qui est très innovante avec des nouveaux formats. 6 de ces podcasts arrivent parmi les 100 plus populaires sur iTunes. C'est le cas de Radiolab, Freakonomics, Death and Sex and Money, Snap Judgment, The New Yorker Radio Hour, etc. On peut citer aussi des podcasts de niche, par exemple sur le sport, Men in Blazers, un podcast de Radiotopia, qui est un réseau là de 13 producteurs indépendants qui ont, par exemple, permettent de suivre l'artiste Benjamin Walker au travail, véritable work in progress, hein, créatif, on voit comment il évolue et qui a touché plus d'un million d'auditeurs. On voit donc que le podcast réussit à toucher à la fois des audiences très larges, Laurent Friche, mais en même temps être l'un des terrains privilégiés de l'innovation radiophonique, les deux à la fois.
Oui, j'ai pris des notes dans la liste des podcasts que vous avez mentionnés. Puisque
vous allez les écouter, oui.
J'en connaissais pas la moitié, je dois l'avouer. Oui, évidemment, parce qu'un podcast, en soi, ce n'est pas très compliqué à produire. Tout dépend le propos qu'on veut tenir. Et du coup, la barrière à l'entrée est très faible. C'est un terrain de jeu formidable pour qui a quelque chose d'intéressant à dire. Encore faut-il ensuite réussir à se faire connaître et réussir à se faire écouter, ce qui n'est pas une mince affaire.
Alors il y a une question qui se pose très souvent, lorsqu'on parle de podcast aux États-Unis, on le conçoit essentiellement comme quelque chose auquel on peut accéder en streaming, alors qu'en France on parle souvent d'un podcast comme quelque chose auquel on s'abonne, donc il y a déjà une différence de nature, et on a un peu l'impression parfois que l'avenir du podcast réside peut-être moins dans cet abonnement, avec tout le problème de l'abondance, de la saturation qu'il pose, un peu comme les flux RSS ou le Google Reader hier, lorsque vous vous abonnez à plusieurs podcasts, ceux-ci s'accumulent chaque jour dans votre compte iTunes ou sur votre application podcast sur smartphone, au risque de l'encombrement, sinon de la saturation, et on n'a pas forcément le temps de tous les écouter. Alors que le podcast auquel on accède en streaming, lui, est disponible en demande, sans abonnement, et c'est peut-être plus vers ça que va l'avenir.
Je ne suis pas sûr qu'il faille opposer l'un et l'autre, à vrai dire, dans un cas comme dans l'autre. L'usage de l'auditeur, c'est d'écouter une émission produite pour la radio ou pas, et de l'écouter quand il veut, quand il le souhaite, en faisant son jogging, en s'endormant, on l'a dit tout à l'heure, dans sa voiture ou ailleurs encore. Et finalement, streaming, téléchargement, ce n'est qu'une modalité technique, je pense, dont la différence va se gommer dans les mois, dans les années qui viennent.
Notamment avec l'augmentation de la 3G, de la 4G et d'applications dédiées. Je pense à TuneIn, par exemple, qui est une application de streaming qui offre un accès gratuit à 70 000 radios et à un grand nombre de podcasts. Et se pose enfin, dernière question sur les podcasts, cette question de la concentration, hein, le futur des podcasts souvent passe par une application. On sait que l'Apple Store domine ce secteur, ce segment de marché grâce à son application podcast qui est désormais installée par défaut sur tous les iPhones. De son côté, Google Play devrait lancer une application podcast au printemps 2016, ce qui facilitera l'écoute pour les plus d'un milliards d'utilisateurs d'Android. Et enfin, Amazon a racheté la société Audible, spécialisée dans les contenus sonores, et devrait proposer un service de podcast innovant, mais réservé aux abonnés de son service Prime. On le voit, Apple, Google, Amazon, on retrouve les géants du web derrière les podcasts. Est-ce que ça ne pose pas un problème de concentration et d'abus, finalement, encore une fois, de position dominante ?
Je ne sais pas très bien si on peut parler d'abus de position dominante. C'est formidable pour l'utilisateur d'avoir accès à toute cette richesse à un endroit unique. Ça pose forcément un problème pour les médias qui ne sont plus finalement les médias. Les nouveaux médias, en l'occurrence, sont ces Apple et Google qui ont le pouvoir de décider quel podcast est mis en avant, quel podcast est favorisé, quel podcast est défavorisé. Il nous est arrivé une mésaventure avec notre application France Musique il y a quelques mois de ça. Apple avait décidé de la dépublier sans qu'on comprenne pourquoi. On a compris ensuite, ils nous demandaient de la republier en 17 ans et plus, sans pourtant qu'on ait publié du contenu
pornographique,
érotique ou je ne sais quoi d'autre. mais juste parce qu'il y avait une petite faille technique très improbable qui a été détectée par des algorithmes
encore plus improbables.
Ce qui montre le pouvoir de ces nouveaux intermédiaires entre les gens qui font des contenus et leur audience potentielle.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power sur Twitter notamment. Vous pouvez également vous abonner au podcast que vous venez d'écouter à l'instant, l'alphabet numérique sur les podcasts. Donc abonnez-vous au podcast sur les podcasts, sur le site franceculture.fr ainsi que sur iTunes. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, vous pouvez consulter notre page alphabetnumérique.com.